4 mai 1984, cours de métaphysique sur la personne, père Marie-Dominique Philippe, Riemann.
Comment faire au semestre, au trimestre précédent, après l'enquête sur la personne, c'est-à-dire essayer de comprendre ce sommet de la pensée philosophique, et comment à travers les diverses philosophies on voit que ce problème est peut-être le problème central de tout un courant de la philosophie. Je sais très bien que la philosophie actuelle, dans la philosophie analytique, refuse de regarder le problème de la personne. Après la mort de Dieu, c'est la mort de l'homme. N'est-ce pas ? Ça a été dit, et on voit très bien. Alors à ce moment-là, je crois que c'est la philosophie qui elle-même se suicide. Une philosophie qui ne veut plus regarder le problème de l'homme est une philosophie qui se suicide. Donc, ne nous suicidons pas avec elle. C'est pas la peine. Laissons les morts enterrer les morts. Je crois que là, il faut être extrêmement farouche. Et il ne s'agit pas d'aller dans cette perspective-là, c'est la mort de la philosophie. Si nous faisons de la philosophie, c'est pas du tout pour être à la mode. On s'en fiche pas mal d'être à la mode. On laisse les morts enterrer les morts. Et une philosophie qui se veut une philosophie analytique, et donc une philosophie qui se veut être uniquement une logique mathématique, ne nous intéresse pas. Alors on la laisse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'avant cette forme de philosophie, il y avait quand même toute une recherche de l'homme. Et c'est ça qui nous intéresse. Et de voir que cette recherche de l'homme est comme une espèce de crête. Dans l'homme, le problème de la personne. Alors, c'est intéressant de se dire, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la personne de l'homme ? Il faut comprendre que c'est la même chose. Rechercher la personne ou rechercher l'homme, c'est la même chose. Parce que qu'est-ce qui caractérise l'homme comparativement aux autres vivants ? C'est qu'il est une personne. Et en disant qu'il est une personne, on veut montrer qu'il est un tout. Mais je ne le dis pas directement quand je dis l'homme. Quand je dis l'homme, j'insiste sur l'aspect concret, plus concret. Quand je dis personne, je veux insister sur le point de vue de ce caractère particulier qu'il y a dans l'homme, qu'il a une possibilité d'orienter sa vie, qu'il a une possibilité d'unifier sa vie, il a une possibilité, au milieu des luttes, donc d'organiser sa vie. Ça caractérise la personne. Donc, j'aime mieux, au point de vue philosophique, dire que c'est la personne que nous recherchons, la personne humaine. Nous avons essayé de comprendre comment les psychologues d'aujourd'hui, et alors là c'est intéressant à voir, ce serait intéressant à creuser, intéressant de voir jusqu'où la psychologie peut aller dans la recherche de la personne. Et vous voyez là aussi, si je dis jusqu'où la psychologie peut aller dans la perspective de la recherche de l'homme, je vois moins les limites de la psychologie. Je vois beaucoup plus les limites de la psychologie dès que je pose le problème au niveau de la personne. Est-ce que la psychologie peut atteindre la personne humaine ? Alors, j'ai fait allusion là à ce que je crois un des meilleurs psychologues d'aujourd'hui. Il est mort, il n'est plus vivant, mais ses œuvres demeurent. Charles Audier, qui est dans une perspective de voir comment, au point de vue psychologique, nous pouvons saisir les sentiments du moi. Et il a raison de parler des sentiments du moi. Au point de vue psychologique, c'est les sentiments du moi. Au fond, le psychologue n'atteint pas la personne. Je sais qu'en disant ça, j'affirme quelque chose que une quantité de psychologues d'aujourd'hui seraient furieux, mais il faut quand même essayer d'être dans la vérité. Alors ça, c'est un très gros problème. On essaiera, dans la session qu'on pourra faire à Saint-Jean-d'Arc, d'essayer de voir cela. Parce que c'est sûrement un très gros problème d'aujourd'hui. notion de la psychologie est très très forte. Il ne s'agit pas de se laisser prendre par une séduction. Est-ce que le psychologue peut atteindre l'esprit? Il faut se poser les questions vertement et puis essayer de le comprendre. Est-ce que le psychologue peut atteindre l'esprit? Si le psychologue ne peut pas atteindre l'esprit, il ne peut pas atteindre la personne. Est-ce que le psychologue peut atteindre l'esprit? Vous avez dit la réaction que j'ai eue à Paris dans certains groupements qu'on avait de psychologues et de médecins, et que je parlais de l'esprit, je voyais alors tout de suite en face de moi une psychologue qui faisait la grimace. Alors je lui ai demandé, pourquoi faites-vous la grimace? Ah, elle dit, on ne peut pas parler de l'esprit. Et évidemment, si vous considérez qu'il n'y a que la psychologie, vous ne pouvez pas parler de l'esprit. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais alors ne parlez pas non plus de la personne. Et puis alors j'ai continué de discuter un petit peu avec elle, et je lui ai dit, parce qu'elle me dit, oh, l'esprit, on ne peut pas en parler. Elle dit, vous ne pouvez pas en parler en tant que psychologue, mais moi je peux en parler en tant qu'homme. Je peux parler de l'esprit. Ça a une signification. Et alors, comme la discussion devenait méchante, au bout d'un certain temps, il faut prendre des arguments ad hominem. Il dit, évidemment, si vous n'avez pas d'esprit, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que l'esprit. Alors, à ce moment-là, tout le monde a éclaté de rire, et elle a compris. On peut parler de l'esprit que si on a une expérience immanente de l'esprit. Il faut se rappeler ces choses-là, c'est très important. Parce que derrière la boutade, il y a une réalité profonde. Si on n'a pas une expérience immanente de l'esprit, ça c'est tout le grand point de vue du pape. Hein. Et il a raison. S'il n'y a pas une expérience immanente de l'esprit, vous ne pouvez pas parler de l'esprit. Alors le psychologue, lui, justement, regarde les choses d'une autre manière. Alors, c'est là où il sera très important de bien préciser. Et ça, il faut se poser la question. Il faut que chacun d'entre nous nous la posions. Parce que nous serons en face de ce problème psychologique. Qu'on soit au Canada ou qu'on soit en France, et au Canada encore pire qu'en France. Parce que la psychologie au Canada fait des ravages encore beaucoup plus grands qu'en France. En France, on a un esprit plus critique, alors ça marche moins. Mais au Canada, et quand ça vient de l'Europe, alors tout de suite, hein, on canonise. Et alors au Canada, le point de vue psychologique devient de toute façon invraisemblable. Surtout dans le milieu religieux. C'est très très curieux. Et milieu religieux, encore pire. Alors c'est parce que c'est encore moins critique. Alors dans le milieu des religieuses, c'est effrayant. Alors vous voyez, on fait deux choses parallèles. Il y a la supérieure et il y a le psychologue. Et alors on double toutes les autorités religieuses par le psychologue. Alors vous comprenez que ça fait quelque chose d'assez original et d'assez propre. Alors, une religieuse qui est dans un cas particulier, puisqu'elle est elle a suivi une session psychologique. Alors, la psychologue a dit, je suis capable de vous... Alors, elle a un directeur psychologique, elle a un directeur surnaturel, le prêtre, et elle a sa supérieure. Là, il y a une trinité. Mais une trinité qui n'est pas dans l'unité. Et qui fait que ça ne va plus. J'ai retrouvé ça dans plusieurs cas. Beaucoup plus qu'en France. Et c'est intéressant à voir. Parce qu'il faut comprendre, est-ce que la psychologie d'aujourd'hui peut-elle parler de la personne humaine? Posez-vous la question et essayez de la résoudre. De façon objective, hein, indépendamment du point de vue affectif. On voudrait beaucoup que la psychologie puisse parler de la personne, mais la psychologie ne peut pas. Alors vous voyez, quelqu'un comme Charles Audier est plus loyal quand il parle des sentiments du moi. Eh bien c'est vrai, le psychologue peut parler des sentiments du moi, mais pas de la personne. Et alors c'est ça la revendication du philosophe. Hein. Le philosophe doit dire, lui doit parler de la personne. Parce qu'il peut parler de l'esprit. Et tout est là. Dans toute l'enquête que nous avons faite, dans toute l'enquête, toute la topique historique que nous avons faite, nous avons vu que la personne, c'était toujours la relation entre l'esprit et la nature. Entre l'esprit et le corps, peu importe, c'est toujours le même dialogue. C'est l'esprit et la nature. Nous avons en nous deux choses. Nous avons une données fondamentales que nous ne pouvons pas modifier. C'est évident, on a un atavisme. On n'en peut rien. On n'en peut rien. On a un grand-père qui était alcoolique. Ben, ça fait partie de notre psychologie, ça. C'est bien évident. Notre grand-père alcoolique nous a permis d'avoir une psychologie particulièrement affinée, mais avec quelques petites lézardes, n'est-ce pas? Et ces petites lézardes, on sait très bien que ça peut devenir dangereux. Quand on voit une lézarde, on dit attention. Alors psychologiquement, quand vous voyez la petite lézarde, le grand-père alcoolique, hein, c'est pas commode. C'est pas commode. On l'avait jamais dit. Ou un arrière-oncle, n'est-ce pas, qui était un brigand. L'alcoolique, c'est le concupiscible. Le brigand, c'est l'irascible. Alors quand on a les deux en même temps, et ça fait un petit combat intérieur assez violent, eh bien, on voit des lézardes. Le psychologue est attentif à ces lézardes, très attentif. Le philosophe peut-être pas assez, mais quand il parle de la personne, il doit être attentif. Parce que c'est le lieu où le philosophe doit assumer le psychologue. C'est le lieu de synthèse de toute la philosophie, ce qu'on va essayer de comprendre. C'est le lieu de synthèse. Donc, comprenons. Là, on soulève, encore une fois, je dis bien, on soulève un très très gros problème. Il ne faut pas le trouver, il ne faut pas le résoudre trop vite. Même si moi je vous dis ceci, faites attention, il faut que vous-même vous puissiez le résoudre. Et de comprendre que le psychologue ne peut pas atteindre la personne parce qu'il n'atteint pas l'esprit. Il atteint le conditionnement. Donc le conditionnement, c'est le sentiment que nous avons. Et je vous avais dit, ce qui est intéressant dans Charles Audier, c'est qu'il nous donne les trois grands sentiments du moi. Et je crois que ces trois grands sentiments du moi correspondent à quelque chose de profondément vrai, profond, mais à un niveau horizontal. L'esprit, c'est la verticale, pour parler un langage d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dès que vous touchez l'esprit, vous touchez quelque chose qui transcende nos sentiments du moi. Heureusement, parce que c'est fatigant, les sentiments du moi. Alors, les sentiments du moi, pour Audier, c'est le sentiment d'autonomie, le sentiment de valorisation, le sentiment de sécurité. Alors, j'avais un tout petit peu complété, parce que c'est intéressant de voir que le sentiment du moi se conquiert dans la lutte, et donc se conquiert toujours à partir des fêlures qui sont dans nous. Parallèlement à ces trois sentiments du moi, vous pouvez découvrir les trois grandes fêlures. Et je crois qu'on découvre là les trois grandes fêlures. Enfin, l'aspect négatif doit toujours se construire à partir d'aspects positifs. Autrement, l'aspect négatif est anarchique. Donc vous comprenez par rapport au sentiment du moi de l'autonomie, le point de vue de l'aliénation. Par rapport au sentiment de valorisation, la culpabilité, et par rapport au sentiment de sécurité, l'angoisse. Alors, vous avez donc six sentiments du moi. C'est pas pour rien qu'on en ait six. Six sentiments du moi. Et ces sentiments du moi se structurent autour du passé, du présent et de l'avenir. C'est normal. Nous avons de temps en temps de terribles angoisses par rapport à demain. C'est des angoisses par rapport à demain. Nous sentons des fêlures. Nous avons de temps en temps de terribles sentiments par rapport au présent. On n'est pas bien dans sa peau. On a l'impression d'être aliéné constamment et qu'on muselle. Et qu'on, vous savez, une muselière, on peut la serrer plus ou moins. N'est-ce pas ? Alors on a quelqu'un qui serre tout le temps la muselière. Et au bout d'un certain temps, il pouvre le bec. N'est-ce pas ? C'est embêtant. Je ne pourrais même plus manger. Je pourrais encore respirer du nez, parce que ça c'est difficile. La muselière respecte le nez, mais ne respecte pas les dents. Et alors on a envie de mordre. Plus vous avez le sentiment d'aliénation, plus vous avez envie de mordre. Parce que vous voulez retrouver votre autonomie. Ça c'est le présent. Puis alors vous avez par rapport au passé. À certains moments, le passé devient très très lourd. Sentiment de culpabilité. J'ai tout raté. Tout raté. que maintenant tout est raté. Et là, vous avez ce sentiment de culpabilité par rapport au passé. Là, c'est vrai que nous sentons ça. Il faut reconnaître ces choses-là. Il y a quelque chose de juste. Mais je n'atteins pas encore la personne. J'atteins mon moi. Mon moi n'est pas ma personne. Ça, c'est très important de comprendre que mon moi n'est pas ma personne. Mon moi psychologique, je peux le cerner. Mon moi psychologique, il est dans le conditionnement des temps et du lieu. Je suis un personnage. Ça, c'est notre moi psychologique. Je suis un personnage. Il y a toujours quelqu'un à côté de moi qui me dégonfle. Quand il n'est pas là, je peux paraître comme intéressant. Il y a un personnage en moi. Chacun d'entre nous, nous avons un petit personnage. C'est très difficile de dépasser notre personnage. Psychologiquement, nous avons un personnage. Ça, c'est très juste. Vous voyez ? Alors, c'est le passage de la personne au personnage. Ou le passage de du personnage à la personne. Alors, psychologiquement, nous avons ce personnage. Et dans ce personnage, nous avons tous du positif et du négatif. Et suivant que nous avons des psychologies plus ou moins optimistes, ou au contraire pessimistes, parce que nous sommes tous psychologiquement ou pessimistes ou optimistes. C'est-à-dire que quand nous nous regardons à travers un miroir déformant. Personne d'entre nous ne se regarde objectivement. Et si vous vous prétendez regarder objectivement quand vous vous regardez, vous vous trompez. Parce qu'on ne peut se regarder que subjectivement. On ne peut pas se regarder autrement. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a toujours un miroir déformant par rapport à soi-même. Ce miroir déformant fait que ou on s'exalte ou on se diminue. Oui, l'aspect négatif et l'aspect positif. Et le personnage de nous, ça c'est notre personnage. Hein. On le sait, il faut le connaître ce personnage. C'est pas mauvais d'être lucide par rapport à soi-même. Et c'est pas mauvais du tout de voir que on a plutôt un tempérament optimiste. Tant mieux. C'est plus facile à vivre. Ou on a un tempérament pessimiste, parce qu'on nous a battus comme un chien crevé pendant qu'on était jeune. Alors on a un tempérament pessimiste. Et instinctivement, on va se mettre dans une cage, on continuera de nous battre. C'est curieux ces choses-là, c'est très très curieux. Et c'est vrai ça, il y a du vrai là-dedans, c'est que la première formation joue un très grand rôle. Si on a eu un père très autoritaire, ça arrive, parce que pater familias, hein, ça existe, les pater familias, c'est les vieilles, vous voyez, les vieilles nostalgies du pater familias. Dès qu'on est père, on veut être pater familias. Dès qu'on est père, on a une autorité, on veut un pouvoir, et un pouvoir absolu, un pouvoir royal. Il y a un lien entre le père et le roi, c'est curieux. Ça, tout son nid, on vous sent. Alors on avait un père qui était un pater familias, parce que voulez-vous, il voulait se rattraper sur ses enfants. Ordinairement c'est ça. Il n'avait aucune autorité, mais il voulait se rattraper sur ses enfants. Alors on a eu un pater familias, quelque chose. Nécessairement, on va se ressentir de ça toute sa vie. Et on n'en peut rien. Parce que c'est trop tard hein, de vouloir le fusiller. C'est trop tard. Et puis c'est pas comme ça que ça va arranger les systèmes. C'est qu'on a les marques. On avait une mère captative. Oh, extraordinaire. On était entièrement pour elle. Et uniquement pour elle. Une mère captative qui nous enveloppait. En dehors d'elle, il n'y avait rien. Tu n'auras pas d'oxygène en dehors de moi. C'est moi qui te donne tout ton oxygène. Alors, vous voyez, c'est la mère captative. Il y a le père autoritaire et la mère captative. Alors, on est bien logé quand c'est comme ça. Et quand les deux sont mariés, alors ça fait quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose. On voit très très bien ça. c'est assez simple du reste à comprendre. Parce que c'est très très rare qu'une mère soit pauvre.
C'est très très rare.
Et c'est très rare qu'un père accepte d'avoir une autorité qui soit un service. D'être entièrement pour ses enfants. C'est très rare, ça, c'est les conséquences. Nous, nous savons, au point de vue théologique, c'est les conséquences du péché. Notre mère n'a pas été assez aimée par son époux. Très aimée pendant ses fiançailles, mais après plus. Alors, elle se rattrape sur ses enfants. Et ses enfants doivent donner une jouissance merveilleuse. Alors, elle est captative. Et notre père n'était pas suffisamment une personne libre et autonome, alors il s'est rattrapé, n'ayant pas beaucoup d'autorité, il s'est rattrapé sur le pouvoir. Et il a exercé ce pouvoir tyrannique. Ça, c'est le petit schéma classique. Il ne faut pas le grossir de trop. Mais psychologiquement, on comprend très bien qu'on le grossit. Parce qu'on veut tout expliquer par l'homme. On n'explique pas tout. C'est là l'erreur, de vouloir tout expliquer par l'autre. Il y a moi là-dedans. Et moi, il n'y a pas que mes parents, il y a mes grands-parents, il y a tout un atavisme, il y a des tas de choses. Et alors, il y a notre moi que nous devons essayer de découvrir progressivement. C'est très vrai qu'il a été plus manipulé quand il était jeune que quand il arrive à un certain âge. C'est plus difficile. Hein. C'est plus difficile de rééduquer que d'éduquer. Et celui qui a été éduqué, il a été marqué. Il a été marqué très fort. Mais il peut toujours se rééduquer. Et c'est ça que les psychologues oublient trop. Les psychologues ont une tendance d'oublier qu'il y a en nous des capacités vitales qui peuvent toujours reprendre. C'est très très rare qu'on a brisé une faculté du vivant. On a marqué son conditionnement, mais la puissance vitale, hein, est au-delà du conditionnement. Alors, parce que la puissance vitale est au-delà du conditionnement, et que le psychologue ne regarde que le conditionnement, on peut toujours rappeler au psychologue qu'on peut rééduquer un être. Il y a une rééducation. Et ça, c'est très important. Alors, cette rééducation, elle se fait à certains paliers de la vie. Tant que possible, il faut la faire assez vite, la rééducation. Et il faut en prendre conscience qu'on est capable de découvrir en nous. Vous voyez, c'est ce que le psychologue ne dira pas. Sauf s'il est philosophe. S'il est psychologue, il regardera toujours un tout petit peu uniquement le conditionnement. Donc ce qui manque directement à la psychologie, c'est de saisir l'esprit et de saisir la finalité. Ça, je crois qu'on peut le dire de façon assez nette. Donc il ne peut pas saisir ce que c'est que la personne humaine. Il saisit le conditionnement, un conditionnement plus ou moins abîmé, et surtout abîmé. Le psychologue saisit plus les plumes enlevées que les plumes qui existent. C'est curieux, ça. Les plumes enlevées, ça, il voit très très bien. Il voit très bien les manques. Mais l'aspect positif, il voit moins. Ça, il faudrait se demander pourquoi. Très curieux. Personnellement, je crois que parce que la psychologie du psychologue est reliée à un désir de guérir, on voit davantage le point de vue négatif. Là, on pourra agir que l'aspect positif. Vous voyez, c'est un peu l'artiste. L'artiste est sensible à la matière qu'on peut transformer. Un artiste dans la phase de la réalisation. Un artiste contemplatif est plus sensible à la qualité qui est donnée. Il faudrait que les psychologues soient plus sensible à l'aspect positif et moins sensible à l'aspect négatif. Dans l'aspect négatif, pour eux, ça les intéresse parce que là, ils pourront être plus efficaces. Et on verra mieux leur efficacité. Alors, ils souligneront ça très fort. C'est vrai que si vous soulignez très fort que quelqu'un est incapable par lui-même de se redresser et que quand même vous le remettez un peu sur pied, vous direz, voyez ce que j'ai fait. Je me souviens, c'était en Suisse, avec un psychanalyste remarquable français, qui était un frangin. C'est la clinique la plus merveilleuse au point de vue psychiatrique. Si vous avez l'occasion de passer par là, il faut la visiter. Parce que c'est une clinique psychiatrique de rééducation où vous essayez de mettre les malades dans un climat de bien-être tel qu'il n'ait pas envie de partir. Mais on les met avec du miel sur les pattes, hein, pour qu'ils n'aient pas envie de partir. Et toute la technique consiste à ce qu'on n'ait pas envie de partir. Et vous voyez, par là, la clinique marche. On n'a pas envie de partir. C'est beaucoup mieux parce que c'est toujours plein. Donc ça marche très bien, c'est toujours plein. Et pour le client, vous voyez, on fait des faveurs. Ah oui, il y a encore peut-être une place, mais évidemment. C'est la même partie de la propagande, ça. C'est extraordinairement bien mené. Et c'est merveilleux pour un psychiatre, un psychanalyste, d'être là-dedans. C'est royal. C'est bien payé, parce que c'est l'argent suisse. C'est bien payé. C'est bien. Alors, je me souviens, c'était un jeune que je connaissais très bien, dont les parents l'avaient mis là, parce qu'il y avait des actes de violence. Il menaçait de temps en temps son père en prenant un gros fauteuil, alors son père avait une frousse intense, alors il n'y avait qu'une seule solution, c'était de l'enfermer là. N'est-ce pas ? De lui faire un mois de sommeil pour que tout revienne bien. Alors, je le connaissais bien, et je ne voulais pas qu'il reste là. Je savais trop bien les choses, on me l'avait dit. Et j'avais déjà visité cette clinique, je savais très bien ce que c'était. C'est un parc magnifique sur les bords du lac Léman. C'est extraordinaire, c'est merveilleux de rester là. Mais c'est très ennuyeux, parce que là, vous êtes sous la dépendance. Alors, je connaissais un tout petit peu ce médecin français. J'avais des amis communs, ce qui me permettait de m'introduire auprès de lui et de pouvoir lui parler un langage un peu net. Je lui ai dit, mais ce malade, je le connais très bien. J'ai envie de le faire sortir. Il y a déjà 15 jours qu'il est ici, c'est suffisant. Croyez-vous qu'il peut se rétablir en sortant de la clinique? Ça, je vous le demande en conscience. Et si je le laisse, ce sera mieux. Parce que c'est l'art qui le rétablira. Tandis que de l'autre côté, j'ai tout de suite dit, ce sera la nature. Ce sera lui. Alors il m'a dit, oui, j'aime mieux que ce soit là. J'ai dit, mais moi j'aime mieux que ce soit la nature. Alors on a eu un petit combat qui était très joli là-dessus. Et j'ai très bien compris leur système. C'est qu'au fond, ils ne veulent pas reconnaître qu'il peut y avoir dans l'homme une possibilité, une capacité d'émerger, de se rétablir. Alors, à ce moment-là, je lui ai dit, bon, maintenant je sais votre avis, je vous demande qu'il sorte. Parce que les parents m'avaient laissé la possibilité de les remplacer. Je vous demande qu'ils sortent. Bon, très bien. Alors, si vous voulez, père, on va aller lui dire. Je dis non. Non, non. C'est moi seul, c'est pas vous qui le faites sortir. Parce que vous voulez qu'il reste, vous. Alors, j'irai seul lui dire. Je vous laisse avec votre opinion, vous. Parce que, en lui disant qu'il soit sorti, vous direz, on a... Non, non, j'irai seul. Il m'a dit, vous avez raison. Je dis, oui, parce que je veux que mon autorité soit sauf de la vôtre et qu'elle ne soit pas liée. Elle a reconnu. Ben, on voit très bien, oui, psychologiquement. Il ne voit que le conditionnement. Alors évidemment, c'est l'art. Il voit uniquement la maladie, c'est l'art. Il ne voit pas la nature, il ne voit pas l'esprit. Vous pourrez vous dire des grandes idées de camp comme ça. C'est tout le temps la même chose. Une fois qu'on a compris, alors on peut insister sur le point. Et alors on les tient. On les tient parce qu'on voit qu'ils n'ont pas vu qu'il y a une personne humaine. Ils ne voient que le malade. Ils ne voient pas la personne humaine. Alors qu'il faut au contraire redonner vie à la personne. Savoir évidemment, c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'interroger un psychologue pour savoir exactement où ça en est. Quand ils ont un peu de loyauté, ils nous disent où ça en est. Et on voit si on peut faire que la personne humaine reprenne. Donc ce qu'il nous faut maintenant, hein, et nous reviendrons à la psychologie après, c'est d'essayer de comprendre comment, au point de vue philosophique, nous pouvons réfléchir sur la personne humaine. Nous pouvons tout de suite, étant donné que nous avons fait cette topique, comprendre que la personne humaine implique de nombreux éléments. La personne humaine n'est pas simple. Il faut donc saisir à la fois sa complexité et son unité. Et qu'est-ce qui va permettre d'unifier la personne humaine? Ça, c'est très important. Et en même temps, sa complexité. Je n'ai pas le droit, au point de vue philosophique, de simplifier le problème. Je dois au contraire essayer de comprendre la complexité de la personne humaine. Comprendre la complexité de la personne humaine, c'est comprendre que les activités humaines sont multiples. Quelles sont les activités humaines qui sont immédiatement intégrées dans la personne ? Quelles sont les activités qui peuvent s'intégrer et les activités qui sont essentielles à la personne? C'est important pour nous, puisque nous prenons en main notre auto-éducation. Chacun d'entre nous, nous voulons être une personne. Même si nous avons été abîmés dans notre jeunesse, très très bien, il y a encore le temps. Évidemment, quand on arrive à un certain âge, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Mais on a le privilège à ce moment-là d'avoir une expérience qui permet de mieux comprendre ce qu'on représente la complexité humaine. Et dans cette complexité, qu'est-ce qui permet l'unité? Ou s'il y a des pôles différents d'unité? Ce qui est très possible. Autrement dit, est-ce que la personne peut se nouer à des niveaux différents? Est-ce que la personne humaine peut se nouer diversement? Première activité, point de vue philosophique, nous l'avons toujours vu, c'est le point de vue du travail. Est-ce que je peux considérer que le travail est un élément essentiel de la personne? Ou est-ce que le travail est facultatif? Ça, c'est très intéressant. Parce que le Seigneur donne un ordre impératif, dominer l'univers. Alors, est-ce que cet ordre impératif du Seigneur est un ordre superflu, moralisant, et que je peux très bien m'en passer? C'est dit dans l'Écriture, hein, dominer l'univers. Et l'encyclique du pape sur le travail reprend cette grande idée, dominer l'univers, pour montrer que le travail est essentiel à la personne humaine. Alors, évidemment, au point de vue philosophique, hein, la Bible, c'est une autorité, mais ce n'est pas ma recherche philosophique. Ça doit m'aider à comprendre, parce qu'il y a une vision de la personne humaine à travers l'Écriture qui est très belle, qui est très grande, que je n'ai pas le droit de négliger si je suis intelligent. Vous avez toujours le droit de dire ça à un psychologue. Est-ce que vous avez lu l'Écriture? Vous allez dire, ah non, c'est triste. Vous avez lu beaucoup de livres psychologiques et vous avez oublié de lire le grand livre qui nous fait comprendre ce que c'est que l'homme. Et qui nous fait comprendre toutes les dimensions de l'homme. Vous devez au moins critiquer si vous n'êtes pas d'accord. Donc je vois dans l'écriture la première dimension. Ce qui est très curieux, c'est que ça correspond exactement à mon expérience philosophique. La question du travail apparaît comme premier philosophiquement. Et quand il est dit dominer l'univers, c'est bien le point de vue du travail, puisque je ne peux dominer l'univers que par le travail. Et donc, il est dit explicitement dans l'écriture et selon l'écriture que pour qu'une personne humaine soit une personne humaine, soit une véritable personne humaine créée à l'image de Dieu, dans la perspective de l'écriture, c'est ça, il faut le travail. Le travail est nécessaire. Le travail est indispensable. Il faut le travail. Philosophiquement parlant, je peux comprendre que le travail est nécessaire. Alors c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Au point de vue philosophique, et purement philosophique, je m'aperçois que le travail est sûrement l'expérience qui, dans ma vie, est la plus durable, celle qui a le plus d'extension, le nombre d'heures où j'ai travaillé dans ma vie, sauf si je suis un roi fainéant, hein. Mais autrement, le nombre d'heures que j'ai travaillé dans ma vie, c'est quand même impressionnant, et le nombre d'heures que nous travaillons encore, toute espèce de travail, travail manuel, travail intellectuel, le nombre d'heures que nous travaillons dans notre vie, c'est très impressionnant. Alors, est-ce que ce nombre d'heures que nous travaillons dans notre vie, est-ce que c'est quelque chose que nous devons évacuer de notre propre personne? Est-ce que nous devons considérer que ce travail ne fait pas partie de notre personne? Ce travail nous est infligé, imposé de l'extérieur. C'est quelquefois comme ça qu'on considère. On vous dit une demi-heure ou une heure de travail manuel par jour. On va le saborder le plus qu'on peut. Et on ne considère pas du tout que c'est formateur. Et que ça doit être intégré dans ma personnalité. On le considère comme des bavures. Est-ce que le sommeil fait partie intégrante de la formation de votre personnalité? Analogue au travail. Le sommeil, je dirais, c'est nécessaire. Ça m'est imposé comme une chose nécessaire, parce que si je ne dors plus, je sais très bien que ça n'ira plus du tout. Donc c'est une condition sine qua non pour ma vie. Mais ce n'est pas du tout un élément. C'est un élément intégrant, vous voyez. Plus je dormirai, plus je serai une personne. C'est pas souvent ce qui arrive. Souvent. Et il y a des psychologues aujourd'hui qui disent si vous dormez trop, c'est pas bon. Parce que c'est la spiritualité de la marmotte. C'est pas bon. Il faut un équilibre, faut dormir le nombre d'heures qu'il faut, mais faut pas dormir trop. C'est pas bon. Et c'est très juste, parce que le sommeil est une condition sine qua non de ma personne au niveau biologique, pour l'équilibre biologique. Mais ce n'est pas intégré dans ma personne. Je ne vais pas définir la personne humaine quelqu'un qui est capable de bien dormir. Ce serait joli comme définition de la personne humaine. Hein? Quelqu'un qui est capable de bien dormir. Oh, cette personne, elle est merveilleuse, elle dort bien. Mais la recommandation que vous ferez, c'est cette personne est tellement... Vous pouvez dire, cette personne est merveilleuse, elle travaille très bien. Pas la même chose du tout. Donc le travail n'est pas une condition sine qua non, tandis que dormir est une condition sine qua non. Et parce que c'est une condition sine qua non, dormir doit être mesuré par ma santé biologique. J'ai moins besoin de sommeil qu'un autre. Tant mieux, je pourrais travailler plus. J'ai besoin de plus de sommeil qu'un autre. Êtes-vous bien sûr? Êtes-vous bien sûr. Ou est-ce que c'est vous qui avez forgé ça au-dedans de vous-même pour un petit refuge? Le complexe océanique. Je suis dans mon berceau. Et là, personne ne me dérange. Je suis tellement bien. Je suis tellement merveilleux. Ça peut être un refuge. Et si c'est un refuge, c'est mauvais pour votre personne. Et donc le sommeil que vous prenez, qui est une condition sine qua non, vous dormez trop. Ça diminue la structure de votre personne. Ah, on doit être attentif à ça. On doit savoir progressivement si pour nous c'est bon de dormir un peu plus que la moyenne. Ou au contraire, s'il vaut mieux dire, eh bien, je ferai un effort. Et j'y arriverai. Une certaine conquête, vous voyez, dominer la matière. La première chose, c'est de dominer votre corps. Et la première chose, c'est de dominer votre sommeil. Alors, faisons attention, hein. N'appliquez pas ça bêtement. En disant, à partir de ce jour-là, je ne peux dormir que vous. Non, non, pas du tout. C'est surtout pas dire ça, ça, ce serait très... Non, il y a une prudence. Il y a une prudence. Condition sine qua non, le sommeil. Hein? Pas plus. C'est pas un principe intégrant de ma personnalité. C'est très curieux, ça, mais c'est intéressant. Parce que de temps en temps, il y a... C'est impossible, mais j'ai pas dormi aujourd'hui. Non, alors je suis vraiment... Je suis une limace. Hein? Alors on voit la trace de vos pas. N'est-ce pas, c'est, ça se voit. Je suis une limace, je n'arrive pas à faire plus... Mais... Mais je t'entends, je tire une corne à droite et à gauche, parce que mais pas plus. Je suis vraiment dans un état, condition sine qua non, donc, qui doit être mesurée par votre état de santé. Et qui est donc quelque chose d'individuel pour chacun d'entre nous. Qui fait partie de notre individu, notre santé. C'est évident qu'il faut. On a dominé notre corps pour que notre corps soit en bonne santé, autant que possible. On n'a pas le droit de faire de son corps n'importe quoi. Parce que le corps est une donnée. Alors, parce que notre corps est une donnée, on sait qu'il y a telle ou telle défaillance, on sait qu'il y a telle ou telle atavisme, on sait tout cela. On doit, dans la mesure où on le peut, dominer son corps. Mais le dominer avec intelligence. Et la prudence joue là. Vous voyez, la question du sommeil intervient au point de vue de la personne. Ça, vous n'auriez pas pensé ça. Mais pourtant, il faut aller jusque-là. Savoir dormir et, au contraire, être éveillé. Ça fait partie de la condition sine qua non de notre corps et de notre santé. Parce que la santé fait partie de notre personne. Ça c'est sûr, ça fait partie de notre personne. Si on est malade, ça fait partie de notre personne. Cette personne est malade. Et donc il y aura des limites. Et si la maladie devient trop forte, ça peut être une condition qui arrête tout le développement de la personne. Ça c'est sûr. Le travail est un élément essentiel à notre personne. C'est un élément essentiel. Pourquoi? Parce que notre intelligence pratique doit se développer à travers le travail et à travers une réalisation d'une œuvre. Je dois développer mon intelligence pratique. Et développer mon intelligence pratique n'est pas quelque chose de facultatif. Je dois développer mon intelligence pratique dans le travail. Dans un travail qui doit devenir artistique autant que possible. Pas un simple travail de manœuvre. Un travail artistique, c'est-à-dire je dois comprendre que mon travail permet un certain ennoblissement de ce que je suis. Le travail ennoblit. Vous voyez comme c'est nécessaire, comme élément essentiel. Alors on va se poser la question ensuite, est-ce que le travail finalise? Condition sine qua non, élément intégrant, finalité. Il faut toujours se poser ces différents éléments par rapport à chacune de nos activités. Mais une activité qui est très importante dans notre vie, c'est le travail, ça c'est bien évident. Et je ne peux pas me dispenser. Et lorsqu'on se dispense du travail, attention. Lorsqu'on se dispense du travail, c'est très très dangereux. Je crois que se dispenser du travail, c'est-à-dire être un roi fainéant, hein, c'est-à-dire regarder les autres travailler et dire « c'est normal, eux, ils savent travailler, moi je sais pas. » Est-ce que vous avez appris? Parce que le travail, ça s'apprend. Et pour aimer le travail, il faut l'avoir appris. Il faut du temps avant d'aimer le travail. Comme toute chose, on acquiert une certaine habileté. Et quand on acquiert une certaine habileté, normalement, ce qu'on fait avec certaine habileté, on l'aime. Le dilettantisme détruit la personne. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'intelligence, que la personne humaine ne peut pas se construire. C'est très important de comprendre le travail comme la base de la personne humaine. La personne humaine ne peut se construire comme personne humaine que dans la mesure où elle sait travailler. On ne demande pas le travail, le même travail pour tout le monde. Hein. Ça, c'est sûr. Si de fait la Providence vous demande un travail intellectuel, ce sera un travail intellectuel. Mais on fait ce travail intellectuel sérieusement. Si la Providence vous demande un travail manuel, vous ferez ce travail manuel sérieusement. Et ainsi de suite. On essaiera de comprendre. Réfléchissez là-dessus. Parce que c'est important.